On passe maintenant à la chronique de Luna. Bonjour Luna.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, un manga à nous présenter. Ça tombe bien parce qu'on a une interview, donc du coup, ça fait beaucoup de temps à consacrer à un autre auteur. Donc on va faire que un petit peu moins de manga cette semaine. De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Alors, ça s'appelle Last Mission Pika Killer, scénarisé par Ahaha.
Ah, vous avez un fou rire, c'est
non,
ça ?
Non, c'est 3A.
3A,
c'est le nom
comme
de
les
la
piles.
Scénariste.
D'accord.
Ou du scénariste.
Ou de scénariste, ou de... Ouais,
voilà,
on
je
ne
sais
pas
trop. Du coup, dessiné par Eri Arada et sorti aux éditions Soleil Manga.
Alors, de quoi nous parle Last Mission Pika Killer ?
Nishiki est un salarié assez banal, mais en rentrant chez lui, il joue tout en un à un MMORPG en réalité virtuelle, connu sous le nom de Real Life Online, mais en vrai, on l'appelle plus RL.
Alors, MMORPG, je vais rappeler un petit peu aux auditeurs qui peut-être ne le connaissent pas, c'est le massivement multijoueur, c'est donc des jeux de rôle avec des combats et ainsi de suite, dans un univers virtuel complètement ouvert, où chacun va avoir un rôle et va avoir donc une classe souvent. Donc on peut devenir un guerrier, si c'est un peu médiéval, on va devenir un guerrier, mais on peut devenir un orque guerrier, on peut devenir un elfe magicien et ainsi de suite. On peut vraiment avoir des classes comme ça et chacun va avoir un personnage et va le faire évoluer dans le jeu et ça peut durer des centaines d'heures, par des milliers d'heures et puis bah, il va falloir faire des quêtes, faire des choses dans ce monde virtuel et puis surtout travailler avec les autres. Essayer de collaborer avec les autres pour faire monter un petit peu son personnage en niveau et puis trouver des quêtes, faire des choses. En tout cas, c'est ça, un MMORPG. Et donc, il est dans ce MMORPG, Real Life Online, RL. Et qu'est-ce qui se passe ?
Bah en fait, depuis tout petit, Nishiki, il adore les marchands, il les admire, vraiment, c'est comme un culte. Et du coup, dans son jeu, il y a la classe marchand. Donc, il l'a obligatoirement choisie. Mais dans RL, elle est inutile en combat, mais aussi inutile en artisanat. Donc, cette classe, ça va être nommée la classe parasite. Donc, c'est vraiment la pire classe qu'on peut avoir. Un jour, en se connectant au jeu, il reçoit un message du maître de sa guilde. Il lui explique que Nishiki est devenu un fardeau pour lui et qu'il se débarrasse de lui, tout simplement. Ce qui est clairement juste car c'est grâce à lui et à tous ses efforts que la guilde a pu augmenter à ce niveau-là et s'est développée très rapidement. Il s'est fait tellement humilier et dégoûté du jeu qu'il veut arrêter. Mais avant, il veut faire une dernière quête. C'est à ce moment qu'il trouve une quête marchande. Il va donc la faire avec un autre marchand. Il est très heureux et il accepte directement. Il va faire la rencontre de Silver. Elle vient de commencer le jeu et c'est sa première quête. Nishiki va lui apprendre tout ce qu'il connaît, mais durant la quête, des PK, donc les PK c'est des player killers, donc c'est des joueurs qui tuent d'autres joueurs, les attaquent. Donc pour réussir la quête, il faut les tuer. Mais ils sont deux et Nishiki est seul, comme Silver n'a jamais joué. Nishiki va-t-il se faire tuer ou va tuer les autres joueurs adverses ?
Donc, très prenant, du coup, j'imagine, comme manga. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah, j'ai beaucoup aimé ce manga. L'histoire, elle est originale, même si ça peut nous faire penser à d'autres mangas ou animés qu'on a déjà vus. J'adore les dessins, ils sont magnifiques et on comprend très 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 bien les scènes de combat, ce qui n'est absolument pas le cas dans beaucoup d'autres mangas d'action ou de jeux vidéo.
C'est pas toujours évident de mettre en scène des combats et là du coup c'est très
là,
fluide
c'est
et très lisible.
On comprend très bien, vraiment c'est un plaisir à regarder et à lire du coup.
Donc là c'est le premier tome, ça finit pas sur un tome.
Non, ça finit en trois tomes.
Il y aura trois tomes en tout, d'accord. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler les références s'il vous plaît ?
Donc il s'appelle Last Mission Pika Killer, scénarisé par Ahaha, dessiné par Eri Arada et qui est sorti aux éditions Soleil Manga.
Merci beaucoup Luna, à une émission prochaine.
À l'émission prochaine, du coup. Au revoir.
On retrouvera Luna dans une prochaine émission pour nous présenter de nouvelles sorties manga. Allez, on passe maintenant, comme je vous l'ai promis, à l'interview du jour.
Interview BD.
On reçoit aujourd'hui donc Olivier Supio qui vient nous présenter son nouvel album qui s'appelle Tati et le film sans fin. C'est sur un scénario de Arnaud Le Gouéfleck, pardon, et c'est aux éditions Glénat. Aujourd'hui dans Bulance Talk, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir Olivier Supio. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Qui est le dessinateur d'un nouvel album qui s'appelle Tati et le film sans fin, sur un scénario d'Arnaud Le Gouéfleck, et c'est paru aux éditions Glénat. Alors, dans l'album, ça parle évidemment de Jacques Tati. Alors, comment est née un petit peu l'idée de l'album ?
Bah d'abord, merci de me recevoir dans ton émission, ça fait super plaisir.
Bah de rien, moi, j'adore ce que tu fais, donc du coup, je suis honoré de pouvoir te recevoir.
Merci beaucoup, ça permet de parler effectivement de comment est né ce projet. Alors il est un peu né d'une manière particulière parce que en fait j'avais eu vent qu'il y avait une collection cinéma chez Glénat, donc la collection 9,5, où il y avait eu déjà pas mal de livres parus, dont notamment le livre qu'avait fait Arnaud Le Gouéfleck sur Lino Ventura.
Tout à fait.
Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne leur parlerai pas d'un ami à moi qui a bien connu Chabrol, qui est un ami qui a fait un livre et puis qui a fait un court-métrage sur Chabrol. Je me suis dit, tiens, peut-être je peux les mettre en contact, peut-être que ça pourra permettre de faire une belle bande dessinée sur Chabrol. C'était vraiment pas dans l'idée que ce soit moi qui la dessine, c'était plutôt mettre en contact le directeur de collection Franck Marguin et puis cet ami. Et puis donc j'appelle Franck Marguin et il me dit, bah écoute, il y a peut-être déjà quelqu'un qui va travailler sur ce sujet. Donc je dis, bon, bah tant pis. Et il me dit, et toi ? Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, je dis, bah comment ça, moi ? Bah, est-ce qu'il y a dans l'histoire du cinéma un réalisateur, une réalisatrice, un acteur, une actrice dont tu aimerais, que tu aimes bien et dont tu aimerais faire quelque chose, et faire peut-être une bande dessinée ? Et là, tout de suite, moi, il y a deux noms qui me viennent, deux cinéastes que j'adore. Donc, ça a été tout de suite Fellini et Tati.
D'accord.
Et Franck, tout de suite, me dit, ah bah Tati, pourquoi pas avec ton dessin, ça pourrait matcher et tout. Bah, je dis, écoute, c'était un vendredi matin, je dis, écoute, cet après-midi, je t'envoie un dessin. Un dessin de Monsieur Hulot, parce que j'aime beaucoup Monsieur Hulot, et du coup je me suis dit, tiens, ce sera une manière de présenter un peu la manière dont je vais dessiner l'album. Et à ce moment-là, c'était pas du tout question d'album, on était vraiment aux prémices. Et du coup, voilà, l'après-midi, je lui ai envoyé un dessin de Monsieur Hulot, et il m'a répondu, je crois, le lundi, en disant, écoute, ça nous plaît bien, mais est-ce que ça t'embête de travailler avec un scénariste? Et je dis, bah non, au contraire, c'est très très bien parce que c'est beaucoup beaucoup de travail, déjà beaucoup de travail en dessin. Donc je me suis dit, le fait d'avoir un scénariste aussi, c'est quelqu'un qui va vraiment se concentrer sur l'histoire. Et c'est grâce à Franck que vraiment j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud Le Gouéfleck. Je dis vraiment la chance parce que c'est vraiment quelqu'un de déjà humainement qui est super, mais en plus qui a fourni un travail remarquable de documentation. Et donc voilà, c'est comme ça un peu que s'est fait le projet, enfin en tout cas l'idée de départ.
Donc du coup, Arnaud Le Gouéfleck vous a donné, enfin tu t'as donné, pardon, un scénario qui raconte toute l'histoire de Tati, mais à travers ses films, c'est ça ?
Mais en fait, toute l'histoire de Tati, ce serait prétentieux parce qu'il y a tellement, c'est tellement un réalisateur et acteur. Protéiforme, quoi. Il y a vraiment tellement de choses à dire sur Tati. Donc nous, on a fait le choix effectivement de suivre Jacques Tati à travers ses films, mais en même temps de parler aussi de l'homme. Et puis surtout, on voulait faire quelque chose vraiment très, enfin quelque chose de respectueux et en même temps où on allait s'exprimer nous aussi avec le dessin, mais aussi sur certains choix. Scénaristique qu'a fait Arnaud et du coup voilà, il y a eu énormément de plaisir pour faire cet album. Déjà, c'est une grande chance de pouvoir parler de et dessiner Jacques Tati et notamment Monsieur Hulot, pour lequel j'ai beaucoup beaucoup d'affection. Donc voilà, ça a été vraiment une très très belle aventure.
Alors un choix en plus graphique, très, ben, on connaît ton amour pour la peinture, la couleur directe. Et du coup, ben, là, tout est en couleur directe, c'est ça ? Et ça donne vraiment poésie, je trouve, à l'album.
Il y a juste certaines scènes où, en fait, vu qu'il y avait des effets tramés, j'ai demandé à un ami à moi de me donner un coup de main graphique sur des choses un peu plus techniques, on va dire. Bah, forcément, pour les trames, tu vois, c'était mieux avec l'ordinateur, effectivement. Mais autrement, la plupart des dessins, oui, effectivement, sont faits en couleur directe. Alors, il y avait quand même un souci au départ. C'est pour ça qu'au tout départ, il y a eu pas mal de temps, en fait, à se caler, parce que c'est paradoxal ce que je vais dire, mais en fait il a fallu que je simplifie mon trait, que je simplifie aussi ma mise en couleur, et en fait c'est pas simple de faire simple. Donc voilà, avec la couleur directe, je me suis dit, voilà, par rapport à l'univers de Tati, j'avais envie d'une forme de sobriété et de retrouver peut-être quelque part un petit peu par moment le trait. Donc ça a été un travail au départ pour vraiment essayer de changer ma manière de travailler.
Et on le retrouve vraiment, ce trait là, on voit là, et déjà la délicatesse des traits, mais en plus des fois certaines cases où il y a quasiment, enfin il y a un personnage, mais tout le trait fait l'ambiance, fait le mouvement, tout est parfait, je trouve, dans certaines planches qui sont absolument merveilleuses. Et puis en plus les couleurs rendent tellement bien, je trouve que l'impression du coup doit rendre bien par rapport aux originaux, je pense, parce que les bleus qui sont très profonds, qui sont très, je sais pas, moi j'ai pas vu les originaux du coup.
Ouais, bah je suis vraiment content de l'impression. J'avais vraiment dit chez Glénat, je leur avais dit attention au bleu.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, tout au long de l'album, il y a un bleu qui est un peu...
Quand c'est les vacances, voilà, de Monsieur Hulot, ouais, en particulier, au bord de la mer.
Et oui, même si les vacances de Monsieur Hulot, au départ, sont en noir et blanc. Mais voilà, il y avait vraiment cette envie d'avoir un bleu qui soit un peu comme une couleur rendez-vous, un peu comme un fil conducteur. Et puis ce bleu-là, bien sûr, c'est le bleu du ciel. Donc vraiment... une envie de faire quelque chose aussi de léger, et puis de la présence, une présence bienveillante. Et c'est vrai que, bah voilà, il y a eu un travail sur la couleur, où aussi, quand je dis simplifier, il y a eu vraiment ce choix de pas trop, par moment, de pas trop en mettre, d'être vraiment plus discret. Et puis il y a d'autres instants aussi où c'est plus surchargé, bien sûr. Il y a des scènes où il y avait besoin de vraiment retrouver pas mal de couleurs. Mais après, voilà, il faut dire aussi que le découpage d'Arnaud m'a vraiment guidé tout le long du livre. Il était très, très précis, et en même temps, quelle chance de travailler avec un scénariste où il y a autant d'échanges. Je crois qu'on s'était tous les deux vraiment donné cet objectif de faire un album qui nous ressemble, et en même temps vraiment dans le respect de l'œuvre de Tati.
Je trouve que le respect y est, parce que quand on retrouve plein de scènes emblématiques, mais même si elles sont esquissées, si on voit aussi des décors, etc., que l'on retrouve dans les films. Et puis je trouve qu'en plus l'ambiance à chaque fois retrace un petit peu le film. Dans Les Vacances de Monsieur Hulot, justement, on voit beaucoup le bleu, la mer, et puis quasiment que ça. Mais dès qu'on va partir sur Playtime et ainsi de suite, on voit plus de construction, on voit plus de choses. Et du coup, ça rend vraiment l'ambiance à chaque fois des films. Donc c'est évidemment un travail qui a été assez énorme, je pense, avec beaucoup de recherches graphiques, mais surtout à partir des films, j'imagine.
Oui, bah, évidemment, en fait, toute la matière est tellement riche dans la filmographie de Tati. Il y a tellement d'images qui sont fortes. Voilà, c'est vraiment, je le redis encore une fois, une très très grande chance d'avoir pu faire ce livre. Et je pense que ça se ressent, j'espère en tout cas, le plaisir qu'on a eu à le faire avec Arnaud. C'est vrai que bah, il m'a fallu quand même à peu près 2 ans de travail pour faire le livre.
Donc c'est vrai que c'est tombé en plein en plus dans la pandémie. Donc quelque part, le temps, il y en avait puisqu'on ne pouvait pas vraiment sortir à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a, eu vraiment un très, très grand plaisir, même de dessin, de retrouver le dessin. Forcément, le personnage de Monsieur Hulot, mais pas que. Il y a aussi François le facteur qui a aussi une manière différente de se déplacer. Enfin, comme, moi, je trouve que vraiment Tati, il est toujours entre la cascade et la danse. Il y a vraiment quelque chose. On croit que c'est accidentel, alors qu'en fait tout est contrôlé. Et c'est toute la force de son jeu. Et puis, toute la beauté aussi de ses personnages. C'est vrai que Monsieur Hulot, forcément, il y a une tendresse qui est là. Et puis, en même temps, une façon de voir le monde où il peut traverser le monde. Il peut se passer plein de choses autour de lui. Il va être toujours dans quelque chose de positif, quelque chose de, qui va vers la lumière. Et ça, je trouve que c'est vraiment un personnage qui, est, qui a été vraiment très agréable à dessiner. Même si au début, ça a été difficile, parce qu'il a fallu se l'approprier. Il y a eu tellement de dessinateurs qui l'ont dessiné avant et puis qui l'ont tellement bien dessiné. C'est vrai que c'était pas facile au départ. Il fallait trouver un peu sa marque. Donc... après, en toute humilité, parce que bien sûr, c'est un personnage tellement qui est déjà tellement fort. En fait, c'est vraiment un personnage qui invite au dessin. Je pense qu'il y a plein de dessinateurs qui pour le plaisir, l'ont dessiné vu la beauté du personnage.
Puis en plus, ouais, le mouvement qu'il faut lui donner, qui n'est pas toujours évident, vu que c'est un mouvement de mime un petit peu à la base. Donc, Tati était un mime, donc. Il y a tout ce mouvement et cette élégance qui doit être aussi dans le dessin donc, et qui fonctionne très, très bien. Ça, c'est sûr.
Merci.
Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit beaucoup les personnages, évidemment, parce que du coup, on voit à travers les films qui sont en train d'être tournés les différents personnages, mais on voit aussi le caractère de Jacques Tati. C'est-à-dire son caractère personnel de toujours vouloir aller de l'avant, d'essayer de faire le maximum et le mieux, et puis surtout de rester dans ses idées, de ne pas partir à gauche, à droite, vers des choses qu'on pourrait lui proposer, rester toujours...
C'était quelqu'un qui était...
qui a surtout recherché, j'imagine, toutes ces références-là et sa vie, façon d'être.
Oui, il a fait un gros travail de recherche et même pendant l'album, on a eu la chance, vraiment la très grande chance de rencontrer Jean-Claude Carrière qui nous a reçus. On voulait vraiment lui poser des questions parce qu'il avait côtoyé Tati, donc il y avait vraiment des choses, il avait des choses à raconter. Là, ça a été une très très belle rencontre. Je crois que je m'en souviendrai. Enfin, avec Arnaud. Quand on est sorti, on est resté à peu près une heure peut-être avec lui. Il a été vraiment d'une très grande gentillesse et d'une grande bienveillance. Et c'est vrai que quand on est sorti avec Arnaud, on se parlait pas. Et un quart d'heure, peut-être 10 minutes après, on a dit la même chose pratiquement en même temps. On s'est dit qu'est-ce qu'on a de la chance. Et je crois que cette rencontre aussi, ça va nous lier pour pas mal de temps parce que c'était vraiment un temps suspendu. Cette rencontre à la fois très simple et en même temps très riche, vraiment ça nous permettait de commencer l'album vraiment avec une belle énergie. Ouais.
Et vous avez dû demander, j'imagine, l'autorisation aussi aux ayants droit. Donc
non, en fait, c'est surtout au film de mon oncle qui font un grand travail, un énorme travail sur les films de Jacques Tati, notamment sur la restauration de ces films, mais aussi toujours dans l'idée de faire découvrir au maximum de personnes son univers. D'ailleurs, à ce propos, il y a un super documentaire qui est sorti qui s'appelle Jacques Tati tombé de la lune, donc qui est vraiment magnifique. Donc à voir absolument, parce que c'est vrai que c'est un réalisateur, un acteur qui est tellement singulier, qui a vraiment son univers à lui. Et comme tu disais, c'est vrai qu'il était très exigeant, mais il était très exigeant envers lui-même aussi. Il avait vraiment cette exigence de la qualité et puis de grandes envies en fait par rapport à ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier chez lui. C'est pour ça aussi que ça s'appelle notre livre s'appelle Tati et le film sans fin. C'est que par exemple, on a cet exemple-là, d'ailleurs on en parle dans l'album, où en fait quand il avait vu Les Dents de la Mer, ça lui avait tellement plu qu'il s'était dit, tiens, pourquoi je ne rajouterais pas dans Les Vacances de Monsieur Hulot un passage où avec le kayak se transformerait d'une certaine manière en mâchoire qui après le personnage. Donc voilà, c'était toujours dans cette idée de faire mieux, de progresser, de vraiment, vraiment toujours amener... amener son cinéma à une exigence qui lui était propre.
Voire retravailler donc ses films quelques années après pour rajouter des scènes, quoi.
Oui, donc ça, tout à fait.
Ça on le ressent bien aussi. Et puis la difficulté qu'il a eue pour finir aussi donc ses derniers films où il a fallu qu'il parte à l'étranger pour trouver des financements, alors que c'était quand même il avait quand même eu un Oscar et c'était quand même un des plus grands de l'époque en réalisation de cinéma. Mais comme... un des films l'avait coûté trop cher et n'avait pas rapporté assez d'argent. C'était Playtime, c'est ça ? Il a fallu qu'il fasse les autres après avec...
Je suis vraiment très content de pouvoir parler de ce livre parce que personnellement, je pense qu'il y aura un avant et un après ce livre pour moi au niveau des envies parce que ça va devenir de plus en plus difficile de trouver des livres adultes qui vont me donner envie de se lancer dans l'aventure, c'est-à-dire il va falloir que les sujets soient vraiment forts, enfin me donnent envie à ce point. Donc là, c'était vraiment l'envie qui nous a porté sur ce livre. Et c'est vrai que 2 ans de travail, ça a été quand même assez fort. Et après, j'ai eu la chance d'avoir vraiment Arnaud et puis aussi Franck Marguin, le directeur de collection, qui nous ont bien suivis vraiment dans l'idée de faire un beau livre jusqu'à la fabrication. Moi, je suis très content de la réalisation du livre. Au final, et il ressemble à ce qu'on espérait. Donc, c'est vraiment super.
C'est vrai que c'est un superbe livre, un excellent livre, parce qu'on connaît Tati comme ça à travers ses films, mais aussi sa personnalité. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'il n'y a pas que les films qu'on met les uns après les autres, mais il y a vraiment tout le personnage, ses personnages et l'homme, en fin de compte. C'est ça qui est important, je trouve. En tout cas, c'est un excellent livre.
Merci. Alors, je voudrais ajouter une dernière chose, bien sûr. C'est que... Donc, on a commencé les dédicaces autour du livre et je pense que un des plus beaux compliments qu'on m'a fait, déjà, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Ça me donne envie de revoir les films de Jacques Tati ou de voir les films de Jacques Tati que je n'ai pas encore vus. Donc ça, pour nous, je pense qu'avec Arnaud, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse avoir. Ça a été quelque chose qui m'a fait vraiment énormément plaisir d'entendre ça. Parce que vraiment, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de je vais pas dire de faire connaître, ce serait prétentieux parce que les gens connaissent, mais c'est vrai que les nouvelles générations... peuvent avoir à découvrir un cinéma tellement singulier, tellement poétique et en même temps avec les pensées de Tati, ses choix qui sont très forts. Donc du coup, voilà, c'est une grande joie.
C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis reprocuré tous les films, dont ceux que j'avais pas vus. Et puis je suis en train de les revoir. Je crois que je suis arrivé quasiment à la fin. Et puis voilà, j'en ai même revu parce que Parade, il y a plein de choses à voir dedans, je trouve. Alors que c'est pas un des plus connus, mais c'est celui où il joue vraiment le mime, quoi. Et puis comme s'il faisait une boucle un petit peu sur sa vie, donc j'ai trouvé. Mais voilà.
Bah, c'est vrai qu'il reprend dans Parade ce qu'il faisait au Music Hall quand il faisait ses impressions sportives, notamment.
C'est ça.
Et donc c'est vrai que c'est comme tu dis, il y a une forme de boucle. Et il y a toujours cette continuité chez Tati, cette continuité de son œuvre.
Ça s'appelle Tati et le film sans fin. Et du coup, c'est par Arnaud Le Guéflec au scénario et des sublimes planches de Olivier Supiot, qui était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier.
Merci beaucoup pour cette invitation. Merci.
Tout à fait. Et puis, on se retrouve pour le Fellini bientôt, alors. Parce que si j'ai bien compris, c'était Fellini et Tati.
Non, je pense que... On va repartir sur un autre livre avec Arnaud. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Voilà, on est au tout début.
Bien sûr.
Mais voilà, C'est, on a tellement aimé travailler ensemble. Il y a eu vraiment humainement quelque chose qui s'est passé. Donc, je crois que tant pis pour lui, mais je suis pas prêt de le lâcher.
Ok, très bien. Et puis, ben, merci beaucoup, Olivier. Et puis, un petit bisou à Marie Frisson et à Lily Crochette.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci. Merci à Olivier Supio d'avoir accepté cette invitation donc pour la sortie de son nouvel album qui s'appelle Tati et le film sans fin. C'est sur un scénario d'Arnaud Le Goueffleck et c'est aux éditions Glénat. Un magnifique album à découvrir si en plus vous adorez. Si vous ne connaissez pas Tati, c'est magnifique. Et si vous connaissez un petit peu Tati, il y aura plein de choses que vous allez découvrir. Eh ben pour faire une petite pause musicale avant de passer aux autres chroniques BD, ben on va peut-être passer un petit morceau de Jacques Tati, justement. Allez, c'est pour les vacances de Monsieur Hulot. Petite pause musicale bien jazzy pour la bande originale des vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati, choisi par Olivier Supio, qui venait nous présenter Tati et le film sans fin aux éditions Glénat. Automatiquement, le choix a été assez rapide. Donc, merci à Olivier d'avoir accepté cette invitation et puis pour ce choix musical. On passe maintenant aux chroniques bande dessinée de l'émission.
Chronique bande dessinée.
On va commencer ces chroniques BD avec un gros coup de cœur, Les Azous, le tome 2, c'est de Rubio Salvia au scénario, Danny D au dessin et c'est aux éditions Glénat. Je vous avais déjà conseillé le premier tome qui était vraiment excellent. Les Azous, c'est quoi? Ce sont des jeunes parisiens qui ont l'habitude de se regrouper pour échapper à leur quotidien. Et leur quotidien, on est en 1940 et Paris est occupé par les Allemands. Et pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir faire un peu la fête, ils se regroupent entre eux. Ils mettent des vêtements un peu trop amples, des jupes un peu courtes pour les filles. Et ils vont surtout danser sur de la musique américaine, et en particulier noire américaine. Donc du coup, ils vont se regrouper comme ça en bandes, plusieurs bandes de Zazou suivant les quartiers. Et ils vont faire la fête. Et en même temps, du coup, ça va faire une sorte de rébellion contre l'invasion allemande. Alors, dans cet univers, on va suivre Franky qui, lui, vit seul avec sa sœur et qui vit de rapine, de vol. Il est obligé de survivre comme ça. Et il va devoir infiltrer les Azous pour le compte de la police parce qu'il va faire une sorte de deal. En gros, soit tu vas en prison, soit tu vas les infiltrer vu que tu as à peu près le même âge qu'eux et tu vas essayer de voir ce qui se passe exactement parce que la police a l'impression qu'il va y avoir des attentats créés par ces fameux Azous. Alors le voilà dans le premier tome intégré dans sa bande. Il va faire la connaissance de plein de personnes, nous aussi du coup. On va faire connaissance de tout cet univers où les jeunes essayent de survivre grâce à la fête, parce qu'en fin de compte c'est ça. Et dans le deuxième tome, où là ça va devenir un peu plus poignant, un peu plus dur, parce qu'on est en 1942 cette fois-ci, et là du coup il y a la guerre contre l'interdiction aux juifs, en tout cas les juifs doivent se déclarer, et l'interdiction aux juifs de certaines tâches. Alors du coup il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer dans cette bande de Zazou. Franky, lui, petit à petit, s'intègre de mieux en mieux, et en particulier, il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Paulette. Mais c'est son surnom, et c'est Paulette et juive, et donc ça ne va pas obligatoirement se passer le mieux possible pour elle et sa famille. Et donc, Franky va tout faire pour essayer de survivre dans cette époque très dure et de plus en plus violente parce qu'il va y avoir aussi les jeunesses fascistes qui vont arriver en France, enfin ces jeunesses fascistes françaises qui sont là donc pour taper justement pour détruire et les juifs, les homosexuels mais aussi les Azous qui sont aussi font partie aussi de cette bande qu'il va falloir exterminer entre guillemets évidemment. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Ce deuxième tome qui est sous-titré « You don't know what your love is » est vraiment toujours aussi bon. C'est-à-dire que là, on sent beaucoup plus de dureté, beaucoup plus de poigne dans le dessin et dans le scénario. C'est beaucoup plus sombre. Et donc, du coup, les couleurs aussi sont à l'avenant. Et du coup, on est vraiment dans une excellente série. Le premier tome m'avait régalé. Je me suis régalé en lisant aussi le second. Le dessin est vif, il est beau, il est semi-réaliste et vraiment d'une précision grande et folle avec beaucoup, beaucoup d'action en plus. Et puis regardez juste les couvertures. Déjà, il y a un mouvement dans la couverture qui est parfait. Ça s'appelle Les Azous. Le tome 2 est vraiment une grande réussite comme l'était le tome 1 et c'est aux éditions Glénat. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Et puis on continue dans les recommandations avec Héros H-E-R-A-U-T-S. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle Le Griffon. C'est de Corbeyran au scénario, Nicolas Bègue au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Là dans cette aventure on suit, alors on est beaucoup plus tôt, on est à l'époque française du Moyen-Âge. On va suivre Mailleul et Landry qui sont chargés par le roi de France d'aller sur les routes de France et d'aller dans toutes les petites provinces pour recenser tous les emblèmes. Et tous les emblèmes, parce que chaque famille, évidemment, de nobles en particulier, ont des emblèmes, des armoiries, et il va falloir les recenser. Alors Landry, lui, est censé va justement aller à la rencontre pour récupérer ses blasons. Et Mailleul, lui, est un jeune son aide et qui est chargé, lui, de les dessiner pour faire un livre recensant l'intégralité de tous les blasons. Dans le premier tome, ils avaient réussi à découvrir un mystère qui s'était passé dans un village, dans un domaine. Et Marie, avec qui Mailleul s'était appris, et est parti avec eux dans l'aventure. Et là, dans ce deuxième tome, ils arrivent dans une nouvelle région où, bizarrement, deux blasons de deux villages, enfin de deux nobles côte à côte, sont exactement identiques. C'est un griffon avec une partie blanche, une partie jaune. Et donc, le fait qu'il y ait les deux blasons identiques va déranger évidemment les deux, enfin surtout l'un qui demande à ce que l'on puisse changer celui de son adversaire et surtout pourquoi ils sont en adversité justement. Qu'est-ce qui se passe ? Et il y aurait peut-être quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus lointain, en particulier dans l'histoire de leur famille, qui va petit à petit peut-être les réunir et en fin de compte qui se sont aussi déchirés entre eux. Je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer et je n'ai pas envie de trop spoiler. Héro, c'est vraiment excellent. Dans l'historique moyenâgeux, je me disais, tiens, ça peut être... c'est original, mais en même temps, bon, voilà, on en a vu pas mal. Et là, le fait que ce soit... Alors, ils font des petites enquêtes, en fin de compte, ça revient aussi un petit peu à ça. Mais là, c'est l'univers de leur quête qui est assez intéressante, l'univers des blasons. Et c'est vrai que tout l'art héraldique est mis dans cet album et on comprend plein de choses. Le dessin réaliste est magnifique et on prend vraiment plaisir à lire et à suivre les aventures de Maïeul et de Landry, accompagnés de Marie dans ce second tome. Héro est vraiment une excellente série. J'avais été étonné du premier et ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et ben, le second est à l'avenant et donc vous pouvez découvrir Héro, H-E-R-A-U-T-S, aux éditions Delcourt. Je vous le recommande, c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Et pour continuer dans l'historique, je vais vous parler de Trace. Trace, le premier tome s'appelle Lupi Fratres Amantes, loup, frère et amant en français. C'est Triff au scénario, Celestini au dessin. C'est le premier sur trois tomes de cette série qui est aux éditions Tabou BD. Alors Tabou BD, vous allez vous dire, ah bah c'est très très porno. Ben non, justement, parce que Tabou ne fait pas obligatoirement que du porno, même si évidemment on va voir quelques scènes, mais on est plutôt sur de l'érotisme cette fois-ci, mais surtout dans l'historique. On est à l'an 79, on est en plein, en pleine période romaine, et en 79, donc Adriana est une jeune fille qui arrive à se sortir de l'éruption du Vésuve et elle s'en sort avec son esclave mais qui a été élevé avec elle, ils ont le même âge, qui s'appelle Cléo. Et en fin de compte, c'est l'esclave de la famille mais sans être vraiment l'esclave, c'est plus le petit frère, le demi-frère qu'elle n'aurait jamais eu. Lui, c'est un Gaulois et il a été élevé un petit peu comme le frère de Adriana. Le problème, c'est que le père d'Adriana est mort et qu'ils vont essayer, donc Cléo et Adriana, d'aller voir l'oncle d'Adriana à Rome. À part qu'un conflit qu'il y avait eu entre Cléo et ce tonton, ben, c'est très mal fini pour le tonton. Et du coup, lorsqu'ils vont arriver pour essayer d'aller donc à Rome, Adriana va devoir suivre les conseils de son oncle et se marier de force à un noble donc de Rome, et Cléo, lui, va être battu à mort, en tout cas c'est ce que l'on pense, va être battu à mort, et on va suivre les deux destinées, en tout cas on va suivre la destinée d'Adriana, qui de force donc a été mariée, mais qui est tombée sur quelqu'un d'un noble un petit peu plutôt bien compréhensif, c'est-à-dire qu'il est impuissant, il n'a pas la possibilité de rendre heureux sa femme et il le sait, donc il va demander à un de ses esclaves de lui faire l'amour pour pouvoir procréer, parce que lui ce qu'il veut c'est vraiment un fils. Et puis un jour arrivent les jeux de Rome, donc les jeux qui avec des gladiateurs, et là lorsque Adriana va voir le gladiateur qui apparaît donc sous le casque qu'il fait tomber à un moment donné dans le combat, c'est Cléo qui était laissé pour mort par son oncle. Et du coup, c'est vraiment très très agréable à suivre. Le dessin réaliste est magnifique, vraiment vraiment magnifique. Les femmes sont superbes, les hommes sont superbes aussi. Ils sont toujours très très bien dessinés. Alors évidemment, c'est presque de la perfection par rapport à la réalité, je pense, de l'époque. Mais en tout cas, c'est vraiment très agréable. Et puis, on a le côté comment les nobles vivaient à Rome à cette époque, comment comment les femmes passaient leur temps. Bah, elles se louaient en fin de compte les services des gladiateurs parce que du coup ils pouvaient le faire et du coup elles couchaient avec les gladiateurs au vu de leur mari quasiment parce que les maris faisaient pareil de l'autre côté et comme c'était pas privilégié pour les hommes, bah, du coup les femmes aussi le faisaient. Et on va suivre ça. Et puis, j'ai envie d'avoir la suite. J'ai envie de connaître la suite parce que Thrace, donc T-H-R-A-C-E, c'est le nom de gladiateur parce que chaque gladiateur a une fonction, en fin de compte, suivant son armée, son armure et suivant son arme. Il s'appelle pas de la même façon. Et Thrace, c'est donc ce qui est devenu Cléo dans les arènes. Alors, évidemment, Adriana et Cléo qui entretenaient quand même une relation amoureuse depuis le début, vont se retrouver. Et là, bah, on va attendre un peu la suite. Mais bon, c'est très agréable à lire, très rapide à lire aussi, mais vraiment superbement bien dessiné. On apprend plein de petites choses qui sont très réalistes. Et du coup, c'est passionnant. C'est passionnant. Ça s'appelle Thrace. Donc, le premier tome est sorti aux éditions Tabou BD. Évidemment, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a un petit peu de scènes de sexe, mais ce n'est pas du porno pur. On est plutôt sur des relations hommes-femmes plutôt tendres, oui et non. Il n'y a pas que de tendresse. Mais bon, lisez Thrace et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc Thrace aux éditions Tabou BD. Le premier tome est sorti et vraiment, c'est un bon premier tome. Psychothérapie sur un scénario de Jessica Holk, Ghislain de Rixin et des dessins de Emiliano Tanzio. C'est aux éditions Vent d'Ouest, c'est un one-shot qui va nous parler de psychothérapie. Alors c'est psychothérapie en pluriel, au pluriel, et on va suivre deux psychothérapies, une de Gabi, qui est un homme et qui va se confier lui pour la première fois à un thérapeute. Il ne sait pas trop pourquoi il en est là, mais en même temps, il sait que sa vie est un petit peu beaucoup. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de une relation qui va pas bien, enfin une relation qui s'est même terminée plutôt mal, et donc il va essayer de comprendre pourquoi il est comme ça. Et grâce à la psychothérapie, on va suivre aussi en parallèle Paula, qui, elle, est en couple, mais qui a eu un traumatisme. Elle était lors des attentats de Nice. Donc, elle était, elle a vu une de ses meilleures amies mourir. Et du coup, elle a besoin de se confier, de parler de tous ces traumatismes et de ce qui va bien et de ce qui ne va pas dans sa vie. Et on va suivre comme ça, en parallèle, ces deux thérapies. On va comprendre aussi assez vite. On va comprendre que lui étant barman, elle ayant besoin de se ressourcer, de s'amuser un petit peu, bah, ils vont se retrouver dans le même bar parce que lui travaillant là, elle étant une cliente. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va suivre donc le processus de psychothérapie de chacun des deux patients. Et on va apprendre vraiment comment c'est. Alors moi, je n'ai jamais fait de psychothérapie. Peut-être que j'en aurais besoin. Je n'ai pas encore franchi le pas en tout cas. Et donc, en ces deux psychothérapies, on va vraiment avoir des informations, des clés qui vont nous permettre de comprendre davantage comment ça se passe dans un cabinet de psychothérapeute. C'est vraiment très bien fait. C'est un dessin réaliste qui est magnifique, avec beaucoup de couleurs. Enfin, beaucoup de couleurs. Les couleurs sont, je pense que c'est des planches couleur directe et c'est vraiment très, très beau. Après, il ne se passe pas grand-chose non plus dans l'action. C'est sûr que là, on est vraiment posé. On est un petit peu en contemplation, comme pourrait l'être un psychothérapeute des deux patients. Voilà, psychothérapie, c'est original dans son concept parce qu'on va suivre la vie de chacun des deux, de Paula et de Gabi, grâce à cette psychothérapie, de comprendre exactement ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent et pourquoi ils en sont là et pourquoi ils ont besoin de parler, pourquoi ils ont besoin de parler, tout simplement. Et ensuite, ben, on va voir comment ça se poursuit. Psychothérapie au pluriel, c'est un bon one-shot que je vous recommande chez Vents d'Ouest. Moi, j'ai passé un agréable moment de lecture. Section de recherche. Là, on va changer complètement de domaine parce qu'on est dans la police. Ça s'appelle section de recherche. Donc, le tome 1 s'appelle Le Loup de Nancy. C'est de Daniel Herzet au scénario, de Gerardo Balza au dessin. Et c'est aux éditions Zéphyr, les éditions Zéphyr, c'est souvent autour des conflits militaires et beaucoup l'aviation aussi. Beaucoup d'albums tournent autour de ça. Et justement, on va suivre Bruno Kratt, qui est un capitaine de la section de recherche de la gendarmerie de l'air. Donc, c'est un expert des crashs aériens et il va donc enquêter sur le crash d'un avion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La boîte noire ne donne pas grand-chose. Il va aller sur le lieu du crime, le lieu de l'accident, pardon. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis crime, pour pouvoir essayer de comprendre, de trouver des indices. Et lorsqu'il est justement sur le lieu du crime, il va recevoir un appel de la gendarmerie de Nancy, disant qu'il venait de retrouver un corps dans une voiture et que tout laisse à penser que c'était le loup de Nancy, donc un tueur en série, qui aurait fait ce meurtre. À part que Bruno dit, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai tué il y a quelques années, donc ce n'est absolument pas possible que ça arrive comme ça. Donc, il va devoir laisser son enquête actuelle et va la laisser même à sa coéquipière, qui va donc devenir du coup chef sur cette enquête. Et il va se rendre à Nancy. Et on va suivre en parallèle les deux enquêtes qui vont se poursuivre. Et c'est bien prenant, un très bon thriller, un très bon polar que l'on a, voilà, qui nous laisse en plus sur notre fin parce qu'il y a un cliffhanger sur la fin de l'album qui est vraiment impressionnant et c'est vraiment très très bon. Donc du coup, moi je m'attendais à voir aux éditions Zéphyr beaucoup d'avions, de combats et ainsi de suite. Et là non, on est plutôt sur une enquête policière, une double enquête policière même, et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Dessin réaliste, parfait. Enquête bien menée, vraiment une prise aux tripes dès le début et on a envie de connaître la suite. Un très très bon album, c'est vraiment une réussite. Alors on va voir la suite parce que du coup, évidemment, sur un premier tome, tout nous laisse à penser que ça va être vraiment bon. J'espère que ça va continuer, mais section de recherche tome 1. Beaucoup, beaucoup apprécié. Ça s'appelle donc Le Loup de Nancy. C'est le premier tome de section de recherche aux éditions Zéphyr. Une série qui va peut-être être à suivre très rapidement. Et je viens de me rendre compte que le tueur ne s'appelait pas Le Loup de Nancy, même si c'est un petit peu ça, mais il s'appelait Boucle d'Or exactement, parce que c'est que des blondes qu'il tue. Donc du coup, il a été surnommé Le Boucle d'Or. La Venin, le tome 4. Alors là, on est sur Le tome 5, pardon, qu'est-ce que je dis ? Le tome 5 et dernier tome de la série, ça s'appelle Soleil de plomb. C'est de Laurent Astier au scénario et au dessin, des couleurs de son frère Stéphane Astier. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Depuis le début, on suit Émilie qui n'a qu'une chose en tête, c'est la vengeance de sa mère en éliminant petit à petit, alors là on est au Far West, en éliminant tous les meurtriers de sa maman. Parce que sa mère était tuée, elle était prostituée, elle était tuée par toute une bande d'hommes qui, on va comprendre petit à petit, ont pris des fonctions de plus ou moins importantes. Et là, dans le cinquième tome, elle doit essayer d'atteindre le dernier homme qu'elle a encore sur sa liste, qui lui est devenu assez important, ouais, dans le monde. Il est devenu juste président de la République. Donc du coup, vous comprenez bien que cette cible va devenir un peu plus difficile. C'est le président des États-Unis qu'elle va devoir avoir dans son viseur. Alors, je ne vous raconte pas tout, mais il vaut mieux avoir suivi les premiers tomes. Mais de toute façon, vous allez prendre un plaisir fou à lire cette série. Parce que la Venin, c'est extraordinaire. Je vous en parle déjà régulièrement des quatre premiers tomes. Je vous parle aussi d'une superbe réalisation de Ruth Sèvres qui sort les albums petit à petit en noir et blanc, grand format, avec tout le dessin semi-réaliste tirant vers le réalisme de Laurent Astier qui est sublime. Et là, du coup, ben, les couleurs sont très belles. Donc, du coup, c'est vrai que la version couleur est vraiment très bonne. Et puis, l'histoire est bien menée. Là, il y a pas mal de révélations sur le dernier tome. On va retrouver pas mal de personnages aussi qu'on a vus dans les tomes précédents. D'où le fait que je vous dise, essayez peut-être de lire d'abord les premiers tomes pour pas être trop dérangé à l'arrivée de certains personnages. Même s'il y a un petit résumé au départ, il vaut mieux quand même avoir lu les autres tomes. C'est une grande réussite. Le cinquième tome clôt cette aventure qui est vraiment génialissime. L'Avenin, le tome 5, s'appelle Soleil de plomb. C'est de Laurent Astier. Grosse recommandation de Bulles en stock. C'est chez Ruth Sèvres. Et j'ai l'impression que ça fait déjà pas mal de grosses recommandations. Donc, on va essayer de se calmer après. Bien que non, j'ai encore d'autres choses à vous présenter. Donc, il y aura encore des choses qui vont vous plaire. L'Avenin, donc, à ne pas rater. Toute la série est sortie aux éditions Rue de Sèvres. Et là, dans ce début de chronique BD, bon, on passe beaucoup d'une époque à une autre. On va encore repartir dans une autre époque. On va rencontrer Bérengère de Navarre, du trône d'Angleterre à l'abbaye de Lépau. Alors, c'est beaucoup d'auteurs. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un scénario d'Olivier Renaud, des dessins de Bruno Rocco, des couleurs de François Reynaud. Conseiller historique, Bénédicte Fillon-Braguet, Vincent Coriol et Ghislain Bory, parce qu'il y a un gros dossier à la fin de l'album qui nous présente exactement tout ce qui s'est passé et que l'on va suivre un petit peu avant dans l'album, dans la BD. Alors, dessin de Bruno Rocco, réaliste, comme on le connaissait sur ses séries précédentes. Le jeu de pourpre ADN, ou encore le Décalogue, par exemple, dans lequel il a fait un album. Et puis le Dernier Templier aussi, où il a fait les deux derniers albums de la série. Et donc, Bruno Rocco met son trait pour raconter l'histoire de Bérengère de Navarre. Et c'est aux éditions Petit à Petit, donc évidemment très historique dans son concept. Alors, qui est Bérengère de Navarre ? C'était la reine d'Angleterre et qui a été fondatrice de l'abbaye cistercienne de Lépau. Et donc, on va avoir toute sa vie qui va être contée dans cet album. Un mariage qui se passe en France, donc très loin de son pays. Une lutte constante pour faire reconnaître son statut de reine douairière. Et une dévotion totale à la ville du Mans jusqu'à la fin de sa vie. La reine Bérengère a participé au rayonnement de la capitale de la Sarthe. Et c'est pour ça que, vous savez que Petit à Petit fait beaucoup d'albums autour des villes, autour de tout ce qui s'est passé d'historique en France. Et Bérengère de Navarre donc a été une des grandes inspiratrices de toute cette histoire française vue par aussi les étrangers et qui a fait même évoluer du coup beaucoup la ville du Mans. Et voilà cet album très réaliste, très bien détaillé, avec évidemment une grosse caution historique, ce qui fait que on a trois historiens qui supervisent tout ça. Alors là, on est dans l'histoire pure. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose d'inventé, on n'est pas quelque chose qui est juste dans une époque, on est vraiment dans l'histoire pure. Donc pour tous les fans d'historique, c'est vraiment très très bien mené, très bien fait, très bien dessiné. Après, voilà, il faut vraiment apprécier l'histoire avec un grand H, avec beaucoup, beaucoup de détails, évidemment, dans le dessin, mais aussi beaucoup de textes explicatifs. Et puis même un dossier d'une vingtaine de pages à la fin de l'album pour expliquer tout ça avec beaucoup, beaucoup d'iconographie. Ça s'appelle donc Bérengère de Navarre, du trône d'Angleterre à l'abbaye de Lépau. Et c'est aux éditions Petit à Petit. Et on se balade encore dans l'histoire avec Nero. Le tome 1 s'appelle Obscurcie et le soleil terne sont les étoiles. C'est de Emiliano Mamucari, au scénario, Matteo Namucari au dessin, apparemment c'est son frère, et Alessio Avalone, qui sont peut-être demi-frères, mais on ne sait pas, aux couleurs. Et c'est aux éditions Dupuis. Ce premier tome de Nero. Et là, on part à l'époque des croisades, exactement. On est en Syrie. On est en 551 de l'Égire, la 58e année des croisades. Et on va suivre Nero. Nero est un féroce guerrier arabe qui livre un combat donc contre les croisés qui sont venus apporter, entre guillemets, la bonne parole dans ces pays africains. Et de Moyen-Orient. Et on va suivre Nero dans ses combats et il est très fort déjà. Il est craint par ses ennemis, il est aussi craint par ses alliés. Pourquoi ? Parce que il porte les stigmates, une sorte de magie que lui a fait subir son père lorsqu'il était enfant. Et il a voulu avoir une sorte de rituel qui a mal tourné et c'est pour ça qu'il a des stigmates sur le front. Il va donc essayer de vaincre évidemment l'ennemi et il va devoir à un moment donné, ça va pas se passer comme il le souhaite exactement. Et justement, le rituel, le fameux rituel qu'il a raté lorsqu'il était enfant, ce serait peut-être la force occulte qui permettrait, donc c'est la force occulte des djinns, qui permettrait de vaincre l'ennemi définitivement. Donc Nero va être à la recherche donc de ce rituel et de l'endroit où on peut le faire et il va être secondé bizarrement parce qu'ils sont deux, ils étaient ennemis et petit à petit ils vont devoir s'allier pour pouvoir suivre cette même mission par un croisé dont il était le prisonnier et du coup ils vont partir un petit peu. Alors bon, il se passe pas mal de choses, donc je vous dis pas trop encore ce qui se passe. Et puis en plus, ce n'est pas fini. Donc le premier tome, qui est quand même sur 140 pages, est quand même très dense et en même temps très facilement lisible. Pourquoi ? Parce que les planches laissent place à de grands espaces où on va avoir des beaux décors, mais aussi des belles scènes de combat, des belles scènes d'action. Le dessin semi-réaliste très virevoltant et magnifique de Matteo Namucari. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans Prince of Persia, un petit peu dans une aventure dans le désert, avec des actions, avec des combats, un petit peu dans Assassin's Creed aussi, dans cette époque-là. Vraiment, un grand, grand plaisir de lecture sur ce premier tome. J'attends de voir le second. J'ai hâte de voir si le scénario va vraiment être pour porter tous ses fruits. Parce que là, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez simple et d'assez très efficace, mais d'assez déjà vu un petit peu. Donc on va voir pour la suite. Il est vrai que 140 pages de lecture qui se déroule très rapidement avec des très beaux décors et des très belles scènes d'action, bah, ça donne quand même envie de continuer à lire ce style de BD. Donc Nero tome 1, le premier tome est très réussi. On attend la suite pour être sûr que ce soit vraiment une grande, grande série. Un one-shot de André Houot avec Jocelyne Charance aux couleurs. Ça s'appelle Asile avec un point d'exclamation. Et c'est aux éditions Glénat, comme souvent et comme quasiment toujours, avec André Houot. Donc là, on retourne au Moyen-Âge, 1483. Il y a un prince ottoman qui s'appelle Djem qui arrive. Il est conduit par les protecteurs. Par les protecteurs français, donc dans un château, le château de Rochinard, qui se trouve dans la Drôme. Et il va, il fuit en fin de compte son frère qui le menace de mort dans son empire. Et donc, du coup, il est parti avec des servants et des gardes, ainsi que des trésors sur les routes sinueuses de France. Et il se retrouve donc à demander l'asile aux chrétiens qui l'ont conduit jusqu'ici, et en particulier à comment s'appelle-t-il, Bacharin, allemand, qui va donc lui confier et lui donner l'asile. Lors d'une visite auprès du châtelain voisin qui s'appelle le comte de Sassenage, Djem va tomber éperdument amoureux, et apparemment ce sera réciproque, de la fille de celui-ci, la grande fille de celui-ci, qui s'appelle Philippine. Mais leur amour, bien que réciproque, va devoir rester secret, et surtout, il est interdit, et ça va vraiment porter préjudice au prince. Alors que va-t-il advenir de cette idylle naissante? C'est ce que nous offre André Houot dans des superbes planches, mais avec des détails tellement précis. On a l'impression que toutes les pierres sont là, vous pouvez les compter une par une et aller voir dans le château qui doit sans doute exister. Vous allez voir que toutes les pierres sont là. Si vous les comptez, je suis sûr de la précision du dessin. C'est impressionnant. Et puis les couleurs de Jocelyne Charance sont absolument magnifiques. C'est un très bel album. Après, le propos est assez original aussi. On est sur quelque chose, une romance, mais qui n'aurait pas lieu d'être normalement dans cette époque. Et on est plongé, que ce soit par le décor, que ce soit par la façon de parler aussi des gens, parce qu'il y a des conteurs qui viennent nous raconter l'histoire un petit peu de ces montagnes, de Drôme. Tout ça, c'est vraiment assez passionnant, et je trouve que ce one-shot, j'ai été surpris au départ, parce que je vois des géants au départ, je me dis tiens, ça va être quelque chose d'un peu fantastique, et en fin de compte, on comprend que ce sont des conteurs qui racontent comment ont été construites les montagnes. Et puis ensuite, on arrive sur ce prince ottoman qui arrive et qui va tomber amoureux. Ça m'a pas perturbé, mais ça m'a changé complètement les idées. C'est ce que je voulais lire à ce moment-là, et j'ai trouvé ça très très beau, très fort, et surtout les dessins, les planches. En plus, André Houot fait des grandes planches pour montrer bien le décor. Donc, on a le temps de contempler le dessin magnifique, contempler tous les paysages absolument somptueux. Et comme les couleurs sont rehaussent tout ça avec une beauté vraiment magique, cet album qui, je crois, m'avait-il dit lorsque je l'ai rencontré, André Houot, que ça allait être peut-être son dernier album, est juste sublime. Alors j'espère que ce ne sera pas le dernier album, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que du coup ce serait génial. Et puis que, j'espère pouvoir, un moment donné, pouvoir faire une interview peut-être de André Houot pour présenter Asile, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et que je vous recommande grandement. Donc ça s'appelle Asile avec un point d'exclamation. Un one-shot aux éditions Glénat de André Houot et Jocelyne Charance. Et c'est très, très bon à ne pas manquer. Eugénie de l'orthographe. Là, on va complètement changer de thème. Là, on n'est plus dans l'histoire. Hein. Loin de là. Bon, on va peut-être y revenir tout à l'heure parce que, oui, il y a d'autres albums encore qui vont nous parler d'histoire. Mais là, Eugénie de l'orthographe, c'est les règles méchantes, ça s'appelle. C'est de Aurore Ponsonnet au scénario, de David Berry au dessin, et c'est aux éditions Lapin. Là, on est sur des règles d'orthographe, parce que là, on va être quelque chose dans un concept très original. C'est vrai que je suis passé vraiment du coq à l'âne, comme on dit, ou du coq à light, comme diraient ceux qui ne connaissent pas trop. Justement, ceux qui ne connaissent pas trop l'orthographe ou les règles grammaticales pourraient dire « Ah, ça passe du coq à light !» Mais en fin de compte, non, ça passe du coq à l'âne. Eugénie, c'est une génie, justement, mais elle s'appelle Eugénie. Et elle va arriver à chaque fois chez les Lambert, qui viennent d'emménager dans leur nouveau logis. Et à chaque fois qu'ils vont faire une erreur, alors ils trouvent, lorsqu'ils emménagent, ils trouvent une ardoise qui a été laissée par les anciens propriétaires. Et cette ardoise se révèle être magique. Dès qu'il va y avoir une faute grammaticale, une faute d'orthographe, une faute de conjugaison, une faute de liaison qui va être faite, là, Eugénie va arriver et va nous expliquer la règle grammaticale qui va avec. Le principe est assez génial. Alors, on est en train d'attendre et de regarder un petit peu quand est-ce que les deux protagonistes vont faire des erreurs. On se dit, ah tiens, là on connaît. Alors moi, pour l'instant, je connaissais les règles grammaticales. Moi, je suis assez... On m'a bien enseigné, peut-être un petit peu trop par moment, mais les règles grammaticales et de conjugaison. Ma maman étant institutrice, c'était très, très précis et il fallait vraiment bien, bien savoir écrire et parler. Et donc, du coup, Eugénie de l'orthographe m'a rappelé plein de choses. Alors, le dessin, si vous voulez un dessin absolument magnifique, avec des précisions, tout ça, vous pouvez passer votre chemin parce que là, ce sont des patates, mais qui n'ont même pas de bras ni de jambes. Hein. Donc, du coup, c'est juste la coiffure et la forme des yeux, même si la forme des yeux est encore pareille. Mais Eugénie, par exemple, a des petites lunettes rouges avec un chapeau violet. Alors, c'est la seule patate violette en même temps. Et les deux autres sont jaunes. Ça fait un peu les Simpsons, mais pas fini, quoi. Ça fait un peu ça. Mais c'est marrant parce que la coiffure de chacun des personnages est différente. Et donc, on reconnaît tout de suite dans les Lambert, le papa et la maman. Et puis, du coup, Eugénie, on la reconnaît directement vu que c'est la seule violette. C'est marrant, c'est bien fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que, du coup, ça fait des petites règles d'orthographe. J'ai envie de le prêter à d'autres pour pouvoir voir leur offrir, pour pouvoir leur expliquer, leur montrer des petites fautes qu'ils pourraient éventuellement faire et surtout ne plus le faire après. Et donc, du coup, si vous voulez découvrir cette histoire, alors c'est pas une histoire, c'est des scénettes en fin de compte, et à chaque fois, on va essayer de repérer la faute d'orthographe avant que Eugénie arrive. C'est ce que je fais, mais en fin de compte, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça m'a fait un petit peu... Bon, c'est peut-être moi dans ma tête aussi qui me suis créé un jeu avec ce livre. Donc, ça s'appelle « Le Eugénie de l'orthographe, les règles méchantes ». C'est aux éditions Lapin. C'est marrant, c'est à découvrir un petit peu pour toute la famille parce qu'il y a quand même des règles pour toute la famille vu que c'est les mêmes règles grammaticales pour tout le monde. Eugénie de l'orthographe aux éditions Lapin. On enchaîne avec le 14e tome déjà de Théodore Poussin, et il s'appelle Haro Satoe. C'est de Franck Le Gall toujours depuis le début et c'est aux éditions Dupuis. Alors quand je dis déjà 14e tome en 35 ans, parce que ça fait quand même 35 ans que ce marin qui était secrétaire au départ a décidé de partir sur les mers de Chine. On est en 1928. Et là, il a été. Il faut avoir lu un petit peu les albums précédents, toute l'histoire, pour comprendre qu'à un moment donné, il va être, il va devoir faire des exactions qu'il n'a peut-être pas voulu faire au départ. Et puis petit à petit, ses convictions vont lui permettre et vont lui donner envie d'aller dans certaines directions. Et justement, dans ce 14e tome, il y a l'armée britannique qui est décidée à lui mettre la main dessus, parce que Théodore est soupçonné de piraterie. Donc il s'est réfugié chez Aro Satoe, sur une île soi-disant déserte, qui est juste l'île de cette trafiquante d'armes dont il est un petit peu amoureux, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Et lorsque les soldats vont commencer à arriver, ils vont devoir fuir à l'intérieur de l'île. L'île qui normalement est non habitée va révéler d'autres secrets. Oui, ils vont devoir... Le périple qu'ils vont faire va venir beaucoup plus dangereux que ce qu'ils espéraient, parce que justement ils ne sont pas seuls sur l'île, donc ils se retrouvent entre deux feux, dirons-nous, dans un étau entre l'armée et une peuplade qui hante la forêt. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors il y a toujours aussi tout le côté introspectif de Théodore, qui avait un ennemi et qui est devenu ensuite ami, qui l'a perdu. Donc du coup, il a toutes ses pensées, tous ses remords, tous ses regrets. Il est toujours en train, très pensif, très, très peu expressif aussi dans ses émotions. Et justement, c'est aussi ce qu'on ressent dans l'album. C'est vraiment... une aventure, une vraie aventure, mais toujours avec un personnage qui est un peu et contemplatif et très renfermé. Et du coup, on ressent beaucoup toutes ces émotions. Il y a beaucoup d'introspection dans cet album, encore une fois, avec beaucoup de réflexions autour et du personnage, mais aussi de ses ressentis. Et du coup, Aro Satoe, ben, il vaut mieux, je vous conseille même grandement d'avoir lu les précédents albums pour vous mettre un petit peu dans la peau de Théodore, d'avoir vécu ce qu'il a vécu, d'avoir compris ce qu'il a vécu pour pouvoir apprécier au maximum cette aventure qui est vraiment superbe. Alors toujours un dessin qui est l'Inclair de Frank Le Gall. Alors son personnage est d'une simplicité, en tout cas paraît d'être une simplicité vraiment grande, avec juste un rond, avec des petites lunettes rondes. On a l'impression d'une facilité de dessin, et ce qui est évidemment une des choses les plus dures à faire retranscrire. Et c'est vrai que son personnage, ben, à l'instar de Tintin, est vraiment emblématique maintenant de la BD franco-belge. Alors évidemment, c'est un petit peu plus, un peu moins connu, mais c'est vraiment des aventures, des grandes aventures, pas en plusieurs tomes. À chaque fois, il faut suivre quand même pour avoir l'évolution psychologique du personnage. Donc, je vous conseille évidemment toutes les aventures des Théodore Poussin. Et puis, ce 14e tome est vraiment excellent, que ce soit graphiquement et que ce soit dans l'histoire et dans le ressenti des personnages. Tout est encore parfait, comme le sont souvent les albums de Frank Le Gall. Ça s'appelle donc Aro Satoe. C'est le 14e tome de Théodore Poussin. Et ça continue vraiment une très très belle aventure d'édition. Il était au démarrage des éditions Repérage, enfin de la collection Repérage de chez Dupuis, Théodore Poussin. Donc vous voyez, ça fait, comme je vous disais, 35 ans maintenant. Théodore Poussin, donc le 14e tome par Frank Le Gall aux éditions Dupuis. Les mantes religieuses, le deuxième tome, s'appelle La stratégie de l'araignée. C'est de Bernard Suizen, Sophie Flamand, pardon, au scénario. C'est de Christian Paty au dessin. Et c'est aux éditions Soleil, dans la collection Hors Collection. Alors déjà, ce qui va exploser à l'œil, ce sont les planches en couleur directe de Christian Paty qui sont juste absolument magnifiques. Qui sont magnifiques. Et puis on va suivre cette aventure de ces bonnes sœurs qui n'en sont pas en fin de compte, tout à fait en tout cas, qui se cachent en bonnes sœurs, en tout cas deux aventuriers qui se cachent un peu en bonnes sœurs. Blanche et Arnaud vont de nouveau devoir aider le roi Louis XI. Alors Blanche et Arnaud sont donc habillés en bonnes sœurs. Arnaud, donc évidemment, c'est complètement anachronique, évidemment. Et puis on va suivre aussi toujours les sœurs du couvent de Sainte-Marguerite, de Sainte-Marie-Madeleine, qui, elles, ont des talents particuliers individuels, plutôt circassiennes, dirons-nous. Et ils vont devoir encore partir à l'aventure parce que le Charles de Bourgogne a décidé de venir, de contrer Louis XI et donc de devenir roi à la place du roi. Et pour cela, il a offert une fortune au roi d'Angleterre pour attaquer le royaume de France. Le but de Charles XI, de Louis XI, pardon, ça va être de contrer Charles de Bourgogne en promettant davantage d'argent et en offrant davantage d'argent au roi d'Angleterre qui, lui, est friand de ça. Donc, du coup, tout le monde direction Calais pour pouvoir arriver en premier lieu sur les berges donc, et dans le port pour pouvoir remettre l'argent et qui lui permet de montrer qu'il veut donner au roi d'Angleterre une certaine somme qui arrêterait directement la guerre avant même qu'elle ne commence. Mais évidemment, Charles de Bourgogne veut lui empêcher cette lettre d'arriver. Donc il va tout faire pour contrer cette chose-là. Et pour cela, Louis XI a une idée. Il va y avoir trois escortes qui vont partir chacune de leur côté pour arriver au même lieu. Et à aucun moment, on ne soupçonne qui a la lettre. Enfin, sinon, on le sait, mais pas obligatoirement les adversaires. Alors évidemment, ça va être déjanté, loufoque comme d'habitude. C'est même un petit peu trop. Alors, c'est, des fois, ça tire un peu trop sur, à mon goût, hein, scénaristiquement, sur les jeux de mots. Alors, bien que les jeux de mots, des fois, c'est un peu mal placé. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu lourd par moment. L'humour est un peu lourd. Maintenant, l'idée est sympa. Le scénario se mène facilement. Les personnages sont charismatiques à souhait. Ça, c'est sûr. Ils sont drôles. Ils sont loufoques. Maintenant, je trouve que des fois, il y a un petit peu de lourdeur dans le scénario. Après, c'est mon goût, évidemment, ce n'est peut-être pas le vôtre, mais de toute façon, allez au moins voir l'album pour les planches de Christian Paty. Elles sont magnifiques, elles sont en couleur directe et elles sont fabuleusement justement éclairées. Il y a vraiment des finesses dans le décor, des finesses dans la peinture qui est assez impressionnante. Et vous allez vous régaler rien qu'en regardant les planches de Christian Paty. Après, scénaristiquement, ça reste simple comme idée de scénario. Et après, moi, comme je vous ai dit, je trouvais un peu de lourdeur par moment, mais ça reste quand même un très agréable moment de lecture. Et puis en plus, on va avoir à certains moments des choses qui vont apparaître dans le scénario qui n'ont rien à faire là, alors que c'est un récit qui se voudrait un peu historique, évidemment humoristique. Il va y avoir des personnages en particulier. Bah, celui qu'on voit sur la couverture à gauche, un dragon qui va être là, et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est drôle et ça peut servir quand même le propos. Les Mandes religieuses, tome 2, graphiquement magnifique, scénaristiquement un petit bémol, mais allez voir quand même, cette série-là vaut le coup. Un one-shot aux éditions Rue de Sèvres, plutôt fait peut-être pour les plus jeunes. Ça s'appelle L'échappée belle, c'est de Faith Erin Hicks, qui est une autrice et illustratrice donc américaine. Et aux éditions Rue de Sèvres, donc, sort cet album, L'échappée belle, où on va suivre Victoria, qui adore les chevaux, mais depuis un moment, elle ne pratiquait pas. Et elle arrive dans un nouveau haras. Et elle essaye d'y faire un petit peu sa place, même si elle ne veut pas rentrer en communication vraiment avec les autres. Alors pourquoi il y a ce frein qui se met en place? Surtout qu'elle vient, elle est dans un petit haras, dans une petite école d'équitation, alors qu'elle vient de la plus grande école d'équitation du pays et de la région. Donc qui est un petit peu le concurrent qu'il faut battre. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont la possibilité d'aller là-bas, évidemment, sont beaucoup mieux lotis, ont beaucoup plus de facilité pour pouvoir monter, pour pouvoir avoir des bons chevaux et ainsi de suite. Et pourquoi est-elle arrivée dans ce petit haras? Bah, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Il y a eu quelque chose qui s'est bloqué parce qu'elle, elle voulait absolument faire de l'équitation son métier, en plus de sa passion. Maintenant, financièrement, elle n'avait pas obligatoirement les possibilités qu'avait sa meilleure amie, qui était aussi dans ce haras UP. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est-elle là? Alors, pour tout vous dire, j'ai trouvé ça très agréable. Il y a beaucoup de parties où on voit les chevaux, on voit la tendresse qu'ont les personnes, les différents personnages avec les chevaux, la loufoquerie d'une en particulier dans le haras dans lequel elle va arriver, qui est un petit peu ultime parce qu'elle parle tout le temps. Il faut qu'elle ait d'accord, qu'elle ait tort, elle est toujours très très énervée, un petit peu ambiguë des fois même dans sa façon de dire des choses. Et puis, on se dit, bah, il va y avoir un gros secret, du coup. Bon, honnêtement, j'ai été un peu déçu par le secret. Donc, l'échappée belle m'a peu échappé. J'ai trouvé ça agréable à lire. Un dessin semi-réaliste qui est vraiment très beau. Mais par contre, j'ai trouvé ça, voilà, peut-être un petit peu trop tendre pour moi, un petit peu trop simple pour moi. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus. Donc, j'ai été un petit peu déçu par cet album. Maintenant, je ne suis pas le cœur de cible, c'est sûr. Donc, si vous avez des collégiens qui aiment les chevaux, je pense que ça peut vraiment, vraiment, vraiment leur parler. Et vraiment, ils vont, en plus, comme il y a une question d'amitié qui va rentrer en jeu, évidemment, c'est le moment pour ce type de lecture. Donc, ça s'appelle L'échappée belle. Moi, je n'étais pas le cœur de cible. Donc, midinette qui monte à cheval, je ne le suis pas. Donc, je laisse ma place de lecteur à quelqu'un d'autre. Et je pense que ça peut vraiment toucher, comme je vous disais, les collégiens et collégiennes qui aiment l'équitation. L'échappée belle aux éditions Rue de Sèvres. À vous de faire votre opinion, de vous faire votre opinion. Et puis, deux séries qui finissent. Olive, le quatrième tome est sorti, ça finit, ça s'appelle Retour sur Terre. C'est de Véro Cazot au scénario, Lucie Mazel au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. On suivait Olive, qui est une fille très introvertie, très timide, qui est une lycéenne en pension, et qui a une particularité, c'est qu'elle s'est créée un monde interne, intérieur, où elle parle avec un canard géant, enfin un canard en plastique géant exactement. Elle s'est créé un monde pour justement ne pas être en interaction avec les autres personnes. Et dans ce monde, un jour, elle va rencontrer une personne, un homme, qui est en costume de spationaute. Elle se demande pourquoi il est là, quoi, et elle ne comprend pas trop. Et lorsqu'elle va revenir un peu à la réalité, elle va comprendre qu'il y a une navette spatiale qui est tombée, enfin qui est rentrée sur Terre. Il y a eu un accident et la navette s'est crashée quelque part en Sibérie. Et elle va, enfin on ne sait pas au départ que c'est en Sibérie, mais en tout cas on va le comprendre. C'est elle-même qui va avoir les informations pour situer où avait lieu le crash. Mais en tout cas, on sait que les passagers donc, de cette navette n'ont pas été retrouvés pour l'instant. Et elle rentre en communication avec un des passagers justement de la navette, qui apparemment semblerait être vivant. Donc c'est par ce monde intérieur qu'elle va réussir à mener petit à petit l'enquête et qu'elle va, sur un coup de tête, partir avec sa seule amie, j'allais dire sa meilleure amie, mais c'est aussi sa seule amie, à la recherche de ce spationaute. Alors j'avais trouvé ça très très agréable, très intéressant et très original comme idée. Et du coup, ben, ça finit, je ne vais pas vous dire de quelle façon, mais voilà, elles sont parties sur un coup de tête. C'est un petit peu facile par moment, mais en même temps, on a pas mal de révélations encore dans ce dernier album. J'ai beaucoup apprécié, le dessin est très beau et très élégant et très tendre aussi, en particulier dans le monde qu'elle s'est créé, que Olive s'est créé. Les couleurs sont sublimes et du coup, bah, ça forme une bonne série de 4 tomes qui sont assez faciles à lire et en même temps qui vont parler pas mal de relations avec les personnes qui sont un petit peu plus introverties, relations entre parents et adultes et enfants et adolescents. Tout ça, il y a pas mal de sujets comme ça qui arrivent sur place dans la série. Donc c'est vraiment une très bonne série. Je vous avais déjà conseillé les 3 premiers, si je me rappelle bien. Et du coup, ben, je pense que le 4e tome forme vraiment une très bonne série qui est très agréable à lire par tout le monde dans la famille. Ça s'appelle donc Olive et le tome 4 est sorti. Le tome 4 s'appelle Retour sur Terre et c'est aux éditions Dupuis. Et puis, toujours aux éditions Dupuis, Kid Noise, tome 3, L'héritage de Nowhera. C'est de Kid Noise et de Lapus au scénario. C'est de Autocto, au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis. Comme je vous le disais, c'était une série créée par Kit Toussaint et qui donc finit par Lapus pour ce troisième et dernier tome. Alors, qui est Kid Noise ? Kid Noise, c'est un DJ très connu mondialement qui a la particularité d'avoir un visage, un masque de singe pour pouvoir ne pas être reconnu, un peu comme les Daft Punk avec leur masque futuriste. Lui, c'est un masque de singe et donc personne ne sait vraiment qui est Kid Noise. Et du coup, ça fait pas mal de temps qu'on attendait ce troisième tome. Kid Noise a une particularité dans cet album-là, c'est qu'il vit dans un monde parallèle au nôtre et qu'il est chargé de livrer des rêves dans notre monde. Et donc, du coup, il a des boîtes qu'on lui remet. Il arrive à passer des portes en forme de triangle qu'il a vraiment le sigle de Kid Noise dans la réalité, lorsqu'il joue de la musique. Et par ces portes, il arrive à aller dans des mondes parallèles et donner donc du plaisir aux gens grâce à des cadeaux et à des rêves qu'ils avaient en tête. Et donc, ça peut être par exemple un appareil photo lorsque vous vouliez faire de la photo. Un jour, vous recevez un colis et vous ne savez pas d'où il vient. Et ce colis-là, il y a un appareil photo qui va vous permettre de vous lancer dans cette passion. Kid Noise, lui, il a cette particularité de pouvoir passer les portes. Et donc, il est une sorte de facteur comme ça, de vœux. À part qu'il va se passer beaucoup plus de choses que ça, évidemment, il va être pris il va être pourchassé et là, il va devoir lutter contre des gens maléfiques qui... Alors, ça va être le passé qui va encore jouer beaucoup dans cette ambiance parce qu'il va y avoir un gros problème. Il va y avoir, évidemment, quelqu'un qui essaye de détruire tous les passages pour ensuite que les gens n'aient plus de rêves. Donc, il va falloir évidemment l'annihiler, arrêter cette attaque pour que tout le monde puisse continuer à rêver de la plus belle des façons. Voilà, Kid Noise, c'est un dessin très cartoon et ça fonctionne parfaitement. J'ai trouvé l'univers, alors, dès qu'on prend le premier album, très original et en même temps, il faut plonger dedans. Et là, dans ce troisième tome, on est complètement plongé dans une aventure haletante. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne série. J'ai beaucoup apprécié. L'univers est très, comme je vous disais, cartoon pour le dessin, mais en même temps, très science-fiction. On est un petit peu dans du Men in Black par moment. On est dans beaucoup de choses comme ça, du fantastique pur. Et vraiment, il y a le côté aussi DJ qui ressort beaucoup. On sent qu'il y a une bande musicale derrière qu'on pourrait écouter pour pouvoir être mis dans les ambiances des différentes scènes. Kid Noise, moi j'ai trouvé très bien ce triptyque que j'ai apprécié grandement. J'avais beaucoup apprécié les deux premiers. Et après, comme en plus c'est original, l'idée est originale, ça nous permet d'avoir quelque chose, une trilogie très très intéressante à mettre entre toutes les mains. Je pense que les collégiens peuvent les lire et ils vont kiffer. Et puis ensuite, moi, ça m'a donné aussi d'avoir envie d'écouter la musique de Kid Noise, qui est donc scénariste sur cette propre série. Kid Noise, Lapus au scénario, Autocto, au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis, le troisième et dernier tome de Kid Noise est sorti. Thank you. Allez, encore 2-3 albums pour finir ce bulan stock avec Arcana. Le tome 2 s'appelle Le Parcours du Fou. C'est de Serena Blasco au scénario, dessin et couleurs. Et c'est aux éditions Dracou qui est diffusé par les éditions Bambou. Alors Arcana, de quoi ça parle? On suit Fauna qui vit sur une île, l'île des bâtons. Ça, c'est le début du premier tome. Flora, l'île des épées. Et elles ont 15 ans toutes les deux et des tempéraments complètement différents. Et elles sont jumelles, mais ça, elles ne le savent pas au départ. Et bien, elles vont arriver donc, sur une île, sur l'île d'Arcana, où elles vont devoir intégrer les brigades des arcanes majeures au coven du tarot. Alors là, ça va parler à chaque fois du tarot, comme on l'est, du tarot divinatoire. Et donc, du coup, toutes les figures du tarot divinatoire vont être mises en place dans ce diptyque. Et du coup, elles vont être pourchassées, traquées par des créatures lors de cette première année où elles vont devoir apprendre pas mal de choses. Et dans cette deuxième année, en tout cas, là, dans ce nouvel album, et c'est la deuxième année, il y a 21 épreuves de pouvoir avec des plantes carnivores, etc., qui vont devoir, qu'elles vont devoir passer. En effet, la grande prêtresse est décédée dans le premier tome et du coup, il va falloir trouver son successeur. La grande prêtresse, donc, il va y avoir 21 épreuves, un parcours de 21 portes afin d'élire la successeuse exactement de la grande prêtresse. Flora et Fauna vont faire équipe pour pouvoir passer toutes les épreuves en prenant toutes les portes qui représentent toutes les figures du tarot divinatoire. L'ermite, la mort, la tour. Donc, elles vont devoir affronter tous les grandes peurs. Elles vont se retrouver par moments avec un sens en moins. Donc, elles vont devoir céder l'une sans la voix, l'autre sans la vision pour pouvoir réussir à se guider dans une sorte de labyrinthe, en tout cas d'épreuve. Voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Ça va assez vite dans cet album. Alors, moi, j'ai apprécié l'idée. L'idée est très intéressante parce que, du coup, je ne connais pas du tout le tarot arcanique. Et du coup, ça m'est un peu passé au-dessus à la base. Mais je trouve l'idée intéressante, surtout quand on apprécie cela. Après, en plus, les épreuves, ça peut être des épreuves initiatiques, un peu comme dans beaucoup de séries que l'on pourrait rencontrer, que ce soit au cinéma, à la télé ou en BD. Donc ça, on n'est pas étranger à tout ça. C'est vraiment l'idée qui est intéressante. Après, graphiquement, c'est très, très coloré, c'est très beau en point de vue couleur. Et j'ai trouvé, par contre, que le dessin de Serena Blasco, qui avait fait les premiers tomes de Enola Holmes, était un petit peu simplifié, mais peut-être, je ne sais pas. J'ai préféré ce qu'elle faisait sur Enola Holmes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas analysé jusqu'au bout mon idée, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu mieux maîtrisé. Alors peut-être que les couleurs, si c'était pourtant elle qui faisait les couleurs, je suis en train de vérifier justement, c'était bien elle qui faisait les couleurs en même temps. Donc peut-être que j'ai préféré, en tout cas, donc dans cette Enola Holmes, point de vue graphisme en tout cas, point de vue graphisme. Mais après, ça reste très original dans l'idée. C'est graphiquement, il y a eu des scènes, des visages qui pour moi étaient un peu déformés, qui n'étaient pas obligatoirement, et ça m'a dérangé. Donc quand ça me dérange dans la lecture, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que quand je bloque sur un visage, une proportion qui ne va pas, des yeux qui sont trop grands par rapport au visage, etc., ça me dérange. Et là, c'était le cas dans certaines planches. Alors du coup, on perd un petit peu le fil de sa lecture. Après, l'idée est originale, l'idée est bien menée en plus. Donc c'est bien, il y a un gros suspense. Par contre, il y a des portes qui vont très vite, il y a des épreuves qui vont très vite. On a à peine le temps de les comprendre qu'elles sont déjà quasi finies. C'est mené tambour battant, dirons-nous, avec des fois des graphismes qui m'ont un peu dérangé. Donc voilà, j'ai apprécié sans plus ma lecture. À vous de vous faire votre idée. Le parcours du fou, donc le deuxième tome sur 4 de Arcana, c'est aux éditions Dracou de Serena Blasco. À vous de vous faire votre opinion, mais je pense que je replongerai dedans quand même lorsque le troisième tome sortira, afin de me... Peut-être que c'était un moment de lecture qui était plus difficile, peut-être pour moi. En tout cas, je pense que ce n'est pas dénué d'intérêt, loin de là. Arcana, donc aux éditions Dracou. Alors Nelson, on le présente quasiment plus, on est au tome 25, ça s'appelle « Mauvaise graine ». C'est de Christophe Bertschi, au dessin et au scénario et aux couleurs. C'est chez Dupuis, et puis c'est Nelson, c'est dès le premier strip, parce que c'est la particularité de Nelson, c'est un petit peu comme Snoopy, c'est présenté, ou Calvin et Hobbes, c'est présenté sous forme de strip. Et Christophe Bertschi nous offre donc toujours les facéties de ce diablotin qui est arrivé dans la vie de Julie, qui est une jeune célibataire, toujours célibataire, on va dire. En même temps, ce n'est pas Nelson qui va réussir à lui faire trouver l'amour, hein, loin de là. Et puis, il y a toujours Floyd, le chien de Julie, qui est le souffre-douleur de Nelson, de plus en plus, même dans cet album encore. Alors là, j'ai l'impression que c'était... Il n'y avait pas de thème vraiment général dans l'album. On était plutôt sur quelque chose où on avait plein d'idées. Alors, il y a du premier de l'an, il y a du Noël, il y a un peu de tout. On n'est pas sur un thème général sur les différentes planches, mais ça reste toujours agréable à lire. On ne pourra pas lire les 25 tomes d'un coup. À un moment donné, je pense qu'on aurait un peu une overdose. Mais c'est marrant, le diablotin, il arrive toujours à trouver des idées quand même assez folles et assez saugrenues, mais il n'y a pas que lui qui prend la vedette par moment. Et le dessin simple, cartoon, qui est fait par ordinateur, qui fonctionne très très bien, qui nous est toujours très agréable. Depuis le premier tome, de toute façon, ça n'a pas changé graphiquement. Christophe Bertschi a toujours gardé ce style pour Nelson. Donc Nelson, tome 25, Mauvaise graine, c'est aux éditions Dupuis. Et on va finir avec un album de chez Kenes qui s'appelle Les Petits Voyageurs de l'Art. Le premier tome s'appelle La Joconde de Léonard de Vinci. C'est de Carbone au scénario, Moon Lee au dessin, et c'est aux éditions Kenes. Alors, Les Petits Voyageurs de l'Art, ce sont deux enfants qui s'appellent Lucas et Jade, qui sont avec en voyage de classe au Louvre avec leur école. Et ils essayent de se séparer du groupe. Alors on se demande un peu pourquoi au départ. Et ils disent, mais il faut qu'on fasse attention, il faut que personne ne voit de quel pouvoir on a hérité, parce qu'ils ont hérité d'un certain pouvoir. Et le pouvoir qu'ils ont, c'est de pouvoir traverser un tableau et de se retrouver à l'époque où ce tableau a été peint. Et donc, ils vont se retrouver lorsqu'ils vont traverser la Joconde. Ils vont être transportés en 1506 au Clos Lucé, donc en France, où le roi a demandé à Léonard de Vinci de venir peindre pour pouvoir lui offrir, enfin lui acheter différents tableaux. Et on le voit en train de peindre donc la Joconde. En tout cas, il vient juste de finir. Il y a son modèle qui est là. Et puis, quand le mari de la modèle, de Lisa Gherardini, arrive, il trouve le tableau absolument moche et ne veut absolument pas l'acheter à Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci est complètement dépité. Mais Lucas et Jade vont avoir une idée. Peut-être que dans les tableaux que lui a demandé le roi, plutôt, il va y avoir une possibilité de glisser cette Mona Lisa discrètement afin peut-être de la faire acheter. Parce qu'évidemment, si le passé est changé, peut-être que le présent ne sera plus le même. Peut-être qu'on n'aurait plus eu c'est peut-être grâce à Lucas et Jade qu'on a la Joconde au Louvre. Alors c'est sympa parce que du coup c'est simple comme idée, ça nous permet de retracer un petit peu les périodes historiques de la mise en place de ce chef-d'œuvre. Et puis c'est vraiment plus pour les enfants, ça permet d'avoir un côté didactique tout en étant un côté un peu aventureux. C'est simple, il ne se passe pas non plus énormément de choses, mais ça fonctionne. C'est agréable à lire. Je pense que c'est plutôt fait pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent aborder un petit peu les grandes œuvres de l'art. Donc, Les Petits Voyageurs de l'Art, c'est plutôt pour sensibiliser les jeunes à l'art. C'est le premier tome qui est sorti. C'est de Carbone et Moonly et c'est aux éditions Kenes. Et c'est là-dessus qu'on va finir Bulle en stock pour cette émission. Et voilà, Bulle en stock, c'est fini pour aujourd'hui, mais on reviendra très très rapidement pour de nouvelles aventures graphiques que nous aimons vous partager. Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble des références, des albums chroniqués lors de l'émission sur nos pages Facebook Bulle en stock, Bulle avec un S. Et puis aussi sur ma page Facebook personnelle, Steven Bescond, B-E-S-C-O-N-D. Et vous aurez l'ensemble des albums présentés et les liens vers des podcasts pour pouvoir écouter l'émission à votre gré et la partager avec le plus grand nombre. Parce que notre émission est gratuite, libre, vous avez tout à fait le droit de la partager. Prévenez-nous juste que vous la diffusez, nous ça nous permettra un petit peu de faire les comptes. Et puis vous pouvez aussi évidemment aller sur radiograndparis.fr parce qu'on va remercier Nicolas Godin qui est toujours derrière nous pour pouvoir nous diffuser l'émission et qui nous soutient depuis le début de l'émission, pas le début de l'émission, parce que l'émission existait avant Radio Grand Paris, mais en tout cas qui continue à nous accueillir au sein de sa radio. Merci à lui et merci de sa confiance. Merci aussi à vous d'avoir écouté l'émission, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très très vite, nous on va se replonger dans les milliers de pages que nous avons encore à lire pour pouvoir vous présenter les nouveautés. Allez, je plonge, je mets mon masque et j'y vais. Allez, à la prochaine fois, ciao, c'était Steven pour Bulle en stock. À bientôt.